This time you don't need to get your clickers out. We're going to make an exception. We're going to go straight to our third and last speaker, but don't put your clickers away. We'll get back to them again. Our next speaker is Catherine Potvin. Move on to her first slide. Catherine Potvin est professeure au département de biologie de l'Université McGill, ici à Montréal. Elle a obtenu son doctorat à l'Université Duke, en Caroline du Nord, et depuis lors a toujours travaillé sur les questions liées aux changements climatiques mondiaux. Elle a servi comme négociateur du Panama pour la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques 2005-2009. Et sa recherche actuelle au Panama couvre un large éventail de questions, le thème fédérateur et la conservation des forêts et les changements climatiques. Elle nous offre ce soir un panorama sur les changements climatiques et, comme beaucoup d'entre vous le savez, elle est très en demande par les médias ces jours-ci. Alors, c'est un privilège de l'avoir ici ce soir. Catherine, à toi.
En fait, c'est un privilège de, devant M. Trottier, de donner une des premières présentations de l'Institut Trottier en sciences et politiques publiques de l'Université McGill. C'est le troisième de la série. Et j'ai été choisie comme une des trois boursières, ces trois femmes qui ont eu les trois bourses de l'Institut Trottier. Et c'est ce travail-là dont je vais parler dans la deuxième partie de ma présentation, parce que Miguel m'a bien fait la leçon. Il m'a dit que j'étais ici pas vraiment pour parler de mon truc du Canada, mais plutôt pour essayer de mettre en perspective ma compréhension de l'évolution des négociations climatiques. On entend beaucoup, beaucoup parler cette année de Paris, Paris, Paris. Ben pourquoi Paris? Pourquoi? Ben parce que c'est Paris, mais à part parce que c'est Paris, pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Attendez, on va voir. Oui. Je vais vous faire grâce là de l'historique très, très en détail, mais c'est important de comprendre que le régime climatique mondial, c'est quelque chose qui est en évolution. Et c'est quelque chose qui a commencé vraiment en 1992. Et j'aime répéter que le Canada était porteur de ça. À Rio, en 1992, on a accepté trois grandes conventions internationales en environnement. La Convention de désertification, le Canada s'en est retiré. La Convention de la biodiversité, on est encore assez bon là-dedans, le secrétariat étant à Montréal. Et la Convention des changements climatiques dont on va parler aujourd'hui. La première chose que les pays ont fait quand ils se sont rencontrés pour la première fois dans le cadre de la Convention cadre des changements climatiques, ça a été de dire « c'est pas suffisant, on réglera pas le problème du climat ». Et ils ont décidé de négocier un protocole qui est devenu le protocole de Kyoto. Mais qui se rappelle que la première réunion du protocole de Kyoto, elle a eu lieu à Montréal, en 2005. Alors, encore une fois, le Canada était porteur de cet agenda important au niveau international, puisque c'est ici que le protocole s'est réuni pour la première fois au Palais des Congrès. Et qu'est-ce que les pays ont fait à la réunion de Montréal? Ils ont dit, c'est pas assez. C'est pas assez le protocole de Kyoto, il faut quelque chose de plus ambitieux. Et à Montréal, les pays s'étaient donné rendez-vous en 2009. On était en 2005 et ils s'étaient dit, on va se rencontrer à Copenhague en 2009, et on va adopter un grand protocole ou un nouveau texte légal, mais qui est un texte qui va vraiment amener tous les pays du monde dans la lutte contre les changements climatiques. Peut-être que certains de vous se rappelleront de la conférence de Copenhague. Ça a été un échec lamentable. Il n'y en est vraiment rien sorti, même si on veut essayer d'être gentil. Finalement, l'année suivante, les pays ont renvoyé la balle et ont dit à Paris en 2015. Et ce qui est important ici pour moi, c'est de dire il y a 10 ans qui se sont passés entre la conférence de Montréal en 2005 et la conférence de Paris qu'on attend en 2015. Alors, quand on travaille sur les changements climatiques, on sait que 10 ans, c'est beaucoup d'années. Quand on est Canadien, on peut regarder notre rôle de multiples façons. Alors, je vous propose 3 façons. Vous choisirez celle qui vous convient. On peut dire que le Canada, ce n'est pas un joueur important. On émet plus ou moins 3 % des émissions de la planète. Alors qu'on fasse un effort ou pas, c'est pas très grave. On peut dire que le Canada, c'est le 10e plus grand émetteur de la planète. Peut-être que c'est plus important. Et on peut aussi dire par personne, nous sommes les plus grands émetteurs de la planète. Par personne. Alors, vous avez trois façons ici de décliner et vous pouvez décider comment vous voulez le faire. Alors, ça, c'est un petit... juste une petite tendance, une farce pour essayer de juste vous faire comprendre que la négociation climatique, en fait, c'est une négociation autour de l'énergie, c'est une négociation qui est hautement économique. Et les gens se campent dans des positions, les pays plutôt se campent dans des positions et plus ou moins on peut les grouper en force de farce dans trois grands groupes de pays. Pour moi, c'est important de parler... Oh, Miguel m'avait dit de pas faire ça. De parler des pays insulaires. Ça, c'est les pays qui sont sans doute les plus vulnérables parce qu'ils voient le niveau de la mer qui monte autour d'eux. C'est un peu les chiens de garde du régime climatique qui demandent toujours de l'action, agissez, agissez, agissez. Il y a des vrais problèmes là. Ils sont alliés dans un groupe qu'on appelle l'Alliance des petits pays insulaires. Ils négocient comme un bloc. De temps en temps, il faut quand même dire que l'Europe fait des vraiment bons coups. Dans le régime climatique, ils ont été beaucoup la locomotive. Ils ont adopté des règlements, ils continuent d'aller de l'avant, ils mettent des cibles sur la table. Et il y en a qui disent que ça leur cause des problèmes au niveau économique, parce qu'ils assument une responsabilité dans une planète qui n'est pas prête à le faire. Et il y a tout un autre groupe de pays qui, chaque année, quand les pays se réunissent, reçoivent des fossiles, il y a une cérémonie où on remet des trophées, le trophée des pays qui performent le moins. L'Arabie saoudite, pour n'en nommer qu'un, est un pays qui gagne souvent ce trophée-là. Alors, la négociation des changements climatiques, c'est la difficulté d'avancer tout le monde ensemble et c'est vraiment un jeu de chat et à la souris à qui va réussir d'attraper un pays plutôt que l'autre. Alors, les grands blocs, la ligne rouge ici, ça divise les pays développés largement avec les pays en voie de développement. Et la logique est un peu comme ça. Les pays en voie de développement disent aux pays développés, faites quelque chose et là, j'agirai. Et les pays développés disent aux pays en voie de développement, ben faites quelque chose et j'agirai. Alors, on est un peu dans un cul-de-sac de tourner en rond. Et c'est ça qu'on essaie de briser, cette inertie-là à la conférence de Paris. Alors, quelques petites illustrations d'après où on en est dans les engagements. D'ailleurs, le Canada, aujourd'hui, aurait pu donner sa cible de réduction. Donc, avec les cibles de réduction qu'on a actuellement, on est loin d'être capable de limiter l'augmentation du climat à l'intérieur d'une enveloppe climatique de 2 degrés, qui est celle que le GIEC nous suggère. En haut, la petite photo, c'est pour expliquer un peu la légitimité du fait que je vous en parle, puisque j'ai moi-même été négociatrice à la Convention des changements climatiques pendant plus que 7 ans. C'est donc quelque chose que j'ai vécu de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on en est? On avait Copenhague qui a été un espèce d'échec retentissant. Tellement important qu'une des seules décisions qui a été prise à Copenhague, c'est on désavoue le gouvernement du Danemark et on demande au gouvernement du Mexique, qui aurait dû commencer son travail de négociation 1 an plus tard, à déjà se mettre à parrainer la négociation internationale. Donc, l'année suivante, en 2010, les pays se sont retrouvés au Mexique. Et il y a eu quand même une avancée significative. Les négociations ont été remises sur la table. Et les pays se sont entendus pour créer le Fonds vert sur le climat, c'est-à-dire un fonds dans lequel les pays développés mettent de l'argent qui servira à payer les mesures d'adaptation et d'atténuation dans les pays en voie de développement. Ensuite, l'année suivante, il y a eu une conférence à Durban, en Afrique du Sud. Et là, les pays se sont entendus pour recommencer à négocier un grand protocole international. Mais ce dont les négociateurs se souviendront plus, c'est que quelques jours à peine après la fin de la conférence de Durban où les pays avaient dit « on va négocier un nouvel accord », le Canada a dit « Nous sortons du protocole de Kyoto » en disant « Parce que la Chine et les États-Unis n'y sont pas. Ça ne sert à rien. » Alors, rappelez-vous de ça. Année après année, le régime climatique se bâtit. Actuellement, les pays développés ont mis sur la table des réductions d'autour de moins 20 % comme une cible. Et cette cible-là, elle est insuffisante. Donc, c'est ça qu'on essaie d'augmenter. Le graphique, c'est un des graphiques du dernier assessment du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui nous a fait quelque chose de très intéressant dans le dernier rapport, c'est-à-dire qu'il regarde comment la température pourrait augmenter selon différents scénarios d'émissions. Alors, c'est la première fois qu'on est vraiment capable de relier les émissions ou la réduction d'émissions avec les conséquences sur la température. Alors, si on veut éviter une augmentation de température importante, on a comme guide ces deux scénarios qui sont en bas dans une bande bleue et qui nous disent c'est un espace planétaire tolérable au niveau climatique si on réussit à contrôler le gaz carbonique dans cet espace-là. Quelques avancées positives alors qu'on s'en va vers Paris. Il y a le Fonds vert du climat. Et c'est agréable et c'est plaisant et on peut être fier de savoir que le Canada y a contribué à la hauteur des attentes. Donc, le Canada, cette année, l'année dernière, en novembre, a mis 300 millions de dollars dans ce fonds-là. C'était tout à fait à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Alors, ce fonds-là, c'est la preuve pour les pays en voie de développement qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau du climat. Le plus important, je pense, c'est l'entente qu'il y a eu entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis qui ont doublé l'ambition de leur cible de réduction, donc c'est pas négligeable, et la Chine qui a admis, qui s'est engagée à que ses émissions commencent à diminuer à partir de 2030. Okay? Alors, ça change complètement le contexte international. Je vous rappelle que la position du Canada pour se retirer du protocole de Kyoto, c'était de dire les deux plus grands émetteurs ne font rien. C'est pas le cas actuellement. Maintenant, où est-ce qu'on en est au Canada? Ce sont les données de l'inventaire de gaz à effet de serre du Canada qui sont représentées ici. Alors, notre pic d'émissions en 2007, une très légère diminution depuis 2007. Et les deux lignes, c'est nos cibles de réduction historiquement. Donc, en rouge, c'était la cible de réduction que le Canada avait acceptée pour Kyoto. Et en orange, c'est la cible de réduction qu'on a actuellement pour le Canada. Il semble très clair que le Canada ne réussira pas à rencontrer sa cible actuelle, qui est la cible de Copenhague. Alors, l'initiative que j'ai le privilège de piloter, c'est une initiative très différente, peut-être pour des chercheurs. C'est une initiative vraiment de communication. C'est une initiative pour essayer d'aider le Canada à surmonter sa difficulté de faire face au changement climatique. Alors, on a rendu public un rapport il y a deux semaines, le 19 mars, qui s'appelle, et on a longuement cherché le titre, « Agir sur les changements climatiques ». La date pour lancer notre rapport, c'était pas non plus un hasard, c'était un mois avant le sommet des premiers ministres provinciaux qui aura lieu à Québec le 14 avril pour discuter des politiques climatiques. Et notre idée, c'était de dire… Partout dans le monde, il y a des pays qui font des efforts. Pourquoi est-ce qu'au Canada, ça nous semble si difficile? Donc, on voulait essayer d'identifier des pistes de solutions qui nous semblaient réalistes et qui nous semblaient pourraient être au bénéfice du Canada. L'originalité, c'est sans doute le fait que c'est un projet réellement pan-canadien. On a des chercheurs dans chacune des provinces. C'est pas un groupe d'ingénieurs et c'est pas un groupe d'économistes. On a des ingénieurs, on a des économistes, on a des gens de Poly, on a des gens de HEC, on a des philosophes, on a des gens en sociologie. Parce que les changements climatiques, c'est quelque chose qui est un projet de société. C'est pas juste une solution économique ou technologique. C'est un enjeu de communication, c'est un enjeu de justice sociale. Donc, c'est ça qu'on a essayé de reproduire. On a des chercheurs jeunes, des chercheurs moyens, des chercheurs plus vieux, on a des hommes, on a des femmes. Donc, on est un microcosme de la société canadienne. Et ce qu'on a essayé de faire ensemble, c'est de bâtir un consensus. On a utilisé des méthodes qui existent en sciences sociales, en sciences politiques, par exemple les questionnaires Delphi, qui permettent de voir où est-ce qu'on construit des consensus. Donc, on a identifié avec ces processus-là les axes dans lesquels on pensait qu'un plan d'action climatique pour le Canada devait s'inscrire. Et on a écrit le document à 30 personnes. Il a été évalué par 30 personnes à l'interne avant d'être envoyé à 10 autres personnes, 10 autres experts qui n'avaient rien à voir avec nous pour voir si on était sur la bonne voie. Donc, c'est vraiment un très large consensus d'un groupe de chercheurs de partout au pays qui dit « il faut agir ». On pense que c'est important et on pense même que ça va être bon de le faire. Alors, on présente des orientations stratégiques. Et là, je veux clarifier, ici, je suis vraiment, comme pour moi, au cœur là, de la salle de la surspécialisation. Là, je pense que, supposons qu'on fait une analogie médicale, moi, je dirais, la planète est au bord de l'infarctus. Et le Canada, comme pays, on fait du déni. C'est très commun en médecine. Moi, je représente ici les généralistes, les médecins généralistes. Et vous, vous êtes les médecins spécialistes. On a toutes les deux quelque chose à faire là-dedans. Nous, on voit notre rôle comme un rôle de première ligne, de dire aux politiciens et à la population, savez-vous, on est malade, mais on a une solution. Chose qu'on fait pas beaucoup. On a tendance à plutôt dire, il va se passer ça, puis l'albédo, puis les glaces polaires vont fondre, puis les côtes vont être inondées. Alors nous, on s'est dit, c'est pas vrai, là, quand t'es diabète, ce que tu veux, c'est qu'on te dise comment guérir. On veut pas te dire tout ce qui va t'arriver après que tu vas te rendre malade. Hein? Alors, c'est vraiment dans un contexte comme ça qu'on a travaillé notre rapport. Alors, on a présenté des orientations stratégiques. On dit, il y en a 10, si on va vers ça, on devrait réussir à avancer. Et on a fait très attention de ne pas être très prescriptif. On n'a pas dit, on va rentrer dans un système de droit et plafonnement d'échange. On n'a pas dit, on va mettre une taxe sur le carbone. On n'a pas dit, il va être à 10 ou à 30. Pour ça, on a les gens au HEC qui font ce genre de travail-là. Nous, on a dit, la première chose, c'est qu'il faut un prix sur le carbone, puis il faut qu'il soit national. Il faut que toutes les provinces aient le même. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de compétition qui soit inégale entre les provinces. Ensuite, on s'est penché sur l'énergie, et Normand qui est ici, Normand Mousseau, a été une des personnes qui a porté cette partie-là du dossier. On va regarder comment on produit l'énergie. Et il nous semble que ce qui est le plus porteur ici, parce qu'on veut être positif, c'est de dire on a beaucoup d'électricité renouvelable déjà ou à basse émission au Canada. Et l'électrification avec une énergie à basse émission, ça peut devenir la colonne vertébrale de cette transition-là. Comme on est un groupe qui veut communiquer avec les gens, on a décidé qu'il fallait qu'on soit inspirant. Et ça, c'est la plus belle image qu'on a. C'est une vraie carte géoréférencée du potentiel d'énergie renouvelable du Canada. Et là, ce qu'on dit, nous, c'est, vous voyez les petites lignes blanches, ça, c'est les réseaux électriques déjà existants au Canada. Les petits points blancs, les barrages qui existent, les petits points oranges qu'on voit pas bien, il faudrait changer la couleur, le potentiel de barrages hydroélectriques additionnels. En jaune, le potentiel solaire, en vert, le potentiel éolien. Donc, devant une telle richesse, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Surtout que nos 4 provinces qui produisent de l'hydro sont positionnées de façon parfaite. On a la Colombie-Britannique à côté de l'Alberta, le Manitoba à côté de la Saskatchewan, le Québec à côté de l'Ontario, puis on a le Labrador. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser cette fabuleuse capacité de storage d'électricité qui est notre hydro pour utiliser nos énergies renouvelables. Et si on réussit donc à faire ça, et on pense que c'est faisable, on peut tout à fait changer notre production d'électricité et s'en servir pour un moteur d'une transformation énergétique. Alors, on a continué, évidemment, on parle un peu du secteur pétrolier, On parle aussi, bien sûr, de l'efficacité énergétique. Rien de là de surprenant. Ensuite, on s'est penché dans le côté de l'utilisation et on a parlé, évidemment, des transports. Mais l'important, je pense, du message qu'on essaie de passer, c'est de dire, il faut comprendre que c'est une transition. Alors, j'ai été chanceuse d'avoir Richard qui parlait juste avant moi. Alors, nous, on dit, d'abord, on démontre pas qu'il faut réduire de 80 % en 2050. C'est un fait. Les personnes qui l'ont montré, ça, c'est le GIEC. Le GIEC nous le dit. Il y en a une limite planétaire, et c'est ça. Il faut qu'on arrive à 80 % de réduction en 2050. Donc là, on essaie de voir comment faire ça. Et ce qu'on dit, c'est que c'est une transition. On ne le sait pas exactement. On ne peut pas le savoir, parce qu'on ne sait pas quelle technologie va exister. Par contre, ce qu'on pense qu'on est sûr d'être capable de faire, c'est 100 % d'une électricité à basse teneur en carbone d'ici 20 ans. Ça, on devrait le faire, on le sait. Puis pourquoi je dis on ne sait pas le reste? Essayez de penser dans où vous étiez il y a 35 ans. Moi, je vais vous le dire. Il y a 35 ans, j'avais 20 ans. J'étais en France et j'écrivais des lettres à mes parents. Ça coûtait très cher téléphoner. J'avais pas Skype. J'avais pas de courrier électronique. Puis après être allée en France, j'ai fait ma maîtrise ici à l'Université de Montréal, oui. Et sur un dactylo, pas électrique. Puis après, je suis partie aux États-Unis faire mon doctorat et l'ordinateur, j'étais à l'Université Duke, une grande université des États-Unis, l'ordinateur, c'était une pièce. Et il y avait une madame, une seule, qui savait utiliser la pièce. OK? Ça, c'est 35 ans. Alors, c'est pas vrai qu'on les sait, les technologies qu'on aura pour atteindre ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il nous les faut, puis qu'on a des ingénieurs qui travaillent dessus, c'est bien. Donc, on va y arriver, c'est tout. Il faut se donner les conditions pour le faire, puis arrêter d'avoir peur, puis de dire que c'est pas possible. C'est possible, on a déjà révolutionné les communications. Là, c'est sûr qu'au Québec, il faut qu'on révolutionne le transport. Allez-y, les ingénieurs en transport, on a vraiment besoin de vous. OK? Et il faut se donner donc cette vision-là, puis dire, c'est là qu'on s'en va. Et ce message-là, il passe très bien à la radio et chez les politiciens. Les gens aiment ça. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de mobiliser les gens. De dire, là, il faut arrêter de dire on peut rien faire ou c'est trop compliqué. Moi, je suis une écologiste, je m'entends des fois dire des affaires tellement déprimantes sur l'Amazonie. Là, on s'est tous jurés, on n'en parle plus. On n'en parle plus des problèmes. On va juste penser aux solutions. Et ce qui va être bon pour ça, c'est qu'on va l'avoir, l'innovation, on va stimuler le milieu des affaires, puis on va réussir à aller de l'avant. Et ce qui est très étonnant, c'est que nous, on a lancé notre rapport, on pensait pas vraiment que personne n'en parlerait. On s'était même fait dire que personne n'en parlerait. Puis finalement, on a eu une belle couverture, mais mieux que ça. Hier, on était invité d'aller rencontrer M. Hertel, le ministre. Puis il nous a dit, ben vos 10 orientations stratégiques, moi, je les achète. Hein? Puis on va essayer de faire enligner le Québec vers ça. Parce que c'est juste logique. Alors, je termine en disant que l'ACFAS est un partenaire là-dedans. D'ailleurs, Mme Fortier, l'ACFAS était très heureuse de s'associer à McGill. Et sur le site de l'ACFAS, vous pouvez aller commenter notre rapport. Donc, vous pouvez y aller, écrire, et nous, on va regarder et analyser ces commentaires-là à l'automne. Parce qu'à l'automne, on va essayer de redevenir un petit peu public en partageant les opinions, les commentaires de groupes de la société qu'on a invités à commenter sur notre travail pour élargir un peu le débat. Et on a aussi décidé que notre document pouvait devenir un genre de pétition parce que si on veut montrer au gouvernement que c'est important que ça avance, s'il y a d'autres personnes qui pensent que notre travail vaut la peine, vous pouvez ajouter votre nom, vous pouvez le signer et comme ça, ça va nous aider à parler puis à demander du changement. Merci.